France Culture.
On ne se quitte pas sans un nouveau rendez-vous avec l'actualité de ce samedi 28 juin. C'est votre journal, Estelle Camerer. Bonne journée à vous.
Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Aux États-Unis, Donald Trump salue une gigantesque victoire après une décision de la Cour suprême qui a limité le pouvoir des juges à suspendre les pouvoirs de l'exécutif. Reprise des manifestations pour la libération des otages en Israël après la guerre de 12 jours avec l'Iran, nous serons à Tel Aviv. En France, la marche des fiertés, c'est cet après-midi. Retour sur les origines politiques de cet événement devenu incontournable. Donald Trump salue une gigantesque victoire. Hier, la Cour suprême américaine a limité les pouvoirs des juges à suspendre, à l'échelle nationale, des décisions de l'exécutif qu'il considère comme illégales. Mais pour l'instant, les 9 juges à majorité conservatrice ne se prononcent pas sur la remise en question du droit du sol souhaité par le président américain. Les explications à Washington de Sébastien Paour.
Ce n'est pas encore en pratique une remise en cause du droit du sol, mais c'est une énorme victoire pour le président américain. La Cour suprême vient tout simplement de limiter le pouvoir des tribunaux inférieurs de bloquer ses décisions. Or, depuis qu'il est revenu au pouvoir, une quarantaine de ses ordonnances ont été contrariées, dont le décret qu'il signe dès le premier jour de son second mandat, décret qui remet en cause un acquis gravé dans le 14e amendement de la Constitution depuis plus de 150 ans. Trump écrit que les enfants de parents entrés illégalement aux États-Unis n'ont pas droit automatiquement à la citoyenneté américaine. 22 États avaient saisi la justice, 3 juges fédéraux invalidé le décret. Ils ont utilisé le pouvoir de blocage universel pour empêcher Trump d'appliquer sa politique sur tout le territoire. Et comme les cours d'appel ont refusé d'intervenir, eh bien le milliardaire a demandé à la Cour suprême de complètement bloquer ses injonctions universelles. Il vient d'obtenir gain de cause.
Donald Trump qui a assuré hier qu'un cessez-le-feu à Gaza est proche, peut-être dès la semaine prochaine. De son côté, le Hamas a déclaré qu'il était prêt à libérer les otages israéliens dans le cadre de tout accord. Mais Israël accuse l'ONU de s'aligner sur le Hamas après les déclarations du chef de l'ONU, Antonio Guterres. Chercher à manger ne doit pas se transformer en condamnation à mort, a insisté le chef de l'ONU, qui estime que le système de distribution d'aide mis sur pied par Israël et les États-Unis le 27 avril provoque des massacres à la chaîne. Près de 550 personnes ont été tuées et plus de 4000 ont été blessées par l'armée israélienne à proximité des sites de distribution, d'après les chiffres des services de santé de Gaza. À Tel Aviv, en Israël, les grandes manifestations reprennent ce soir sur la place des otages. Elles ont été interdites comme tout autre rassemblement durant les 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran. Les familles espèrent toujours la libération de leurs proches, mais font appel désormais aux États-Unis pour y parvenir. Galvanisé par les récents événements, il semble de moins en moins compter sur le gouvernement israélien pour y parvenir. C'est ce qu'ils ont affirmé jeudi depuis la place des otages, d'Erwan Chassin.
Lorsqu'ils lisent leur déclaration devant la caméra de journalistes sur cette grande place, difficile de percevoir de l'espoir sur leur visage. Pourtant, il y en a. Au pupitre, cette femme qui tient sa feuille est Einav Zengauker. Son fils est toujours en vie dans un tunnel de Gaza.
Je me tourne vers l'ami d'Israël, Donald Trump. Monsieur le Président, de la même façon que vous avez mis fin à la guerre avec l'Iran, je vous demande de prendre la décision de ramener mon fils en vie. Mettez fin à la guerre à Gaza maintenant.
Car l'obtention rapide d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran par Donald Trump leur redonne tous espoirs de libération. Cela doit en passer par Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient pour Danny Miran, dont le fils est lui aussi otage.
S'il inclut dans les négociations avec l'Iran la libération de tous les otages, ça peut permettre d'avancer vers une solution. Parce que derrière le Hamas, il y a l'Iran.
Car les regards et les espoirs sont bel et bien tournés vers la Maison Blanche.
Président
Trump, je vous en prie, supplie cet homme, ramenez les 50 otages à la maison et rendez sa grandeur au Moyen-Orient. Il s'appelle Ludi Goren. Le 7 octobre 2023, son cousin Tal Shaim a été enlevé avant d'être tué.
Erwan Chassin depuis Tel Aviv. Les funérailles historiques organisées par le pouvoir iranien se déroulent actuellement dans les rues de Téhéran. Plusieurs cortèges ont été lancés pour honorer les hauts gradés de l'armée et des gardiens de la révolution, ainsi que des scientifiques liés au programme nucléaire tués dans les bombardements israéliens. À Budapest, la marche des fiertés aura bien lieu malgré l'interdiction du gouvernement nationaliste de Viktor Orban au nom de la protection de l'enfance contre la propagande LGBTQIA+. plus. Le gouvernement hongrois a également mis en garde les députés européens qui comptent participer en soutien. Des centaines de milliers de personnes sont attendues pour cette 30e marche qui risque d'être perturbée par des groupes d'extrême droite. La marche des fiertés à Paris risque également d'être perturbée par des militants d'extrême droite, mais les participants comptent bien s'élancer dans les rues de la capitale. Il y a 50 ans environ, les premières grandes manifestations pour les droits des personnes LGBT avaient lieu en France. Aujourd'hui, l'événement est devenu incontournable. Mais sa portée politique a-t-elle évolué ? Maria Kerbouche est chercheuse en sociologie à l'Université de Genève. Au micro de Nina Lacour, elle nous éclaire sur les origines et les mutations d'une telle manifestation.
On réduit souvent le début des luttes homosexuelles, des luttes LGBT, à partir de Stonewall, alors qu'en réalité, elles existaient avant. Les premières marches en France, elles se passent dans les années 70. Elles sont aussi fortement liées au contexte français de post-68. Et puis, avec les années, va se créer une espèce de répétition. Les marches vont traditionnellement se passer au mois de juin, qui va être appelé le mois des fiertés, qui varie entre le festif et le politique, et qui permet de rendre visibles les revendications des personnes LGBTQI+ actuelles, tout en rendant hommage aux luttes du passé. À force de répétition, la Pride de Paris, elle a été institutionnalisée, c'est-à-dire qu'elle est aussi devenue plus traditionnelle, plus de liens avec la municipalité, la région, le département. Et à l'inverse, elle a peut-être perdu en portée politique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement quelle est la réponse des différents groupes qui s'organisent, qui vont en fait réagir, montrer la diversité, la pluralité des identités queer de manière intersectionnelle, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir montrer comment on peut être à la fois noir et homosexuel. Et donc, il y a une réponse en fait à la vague nationaliste qui touche toute l'Europe.
Des milliers de manifestants sont attendus cet après-midi sous un message très politique. Queer de tous les pays, unissons-nous contre l'international réactionnaire. Un même RSA à Mayotte que dans l'Hexagone. Les députés ont voté hier pour inscrire dans la loi la convergence sociale de l'archipel à l'horizon 2031. Cette mesure d'égalité était réclamée depuis des années par les Mahorais. À Mayotte, le RSA est actuellement deux fois plus bas qu'en métropole. 14 départements sont toujours en vigilance orange en ce dernier jour ce deuxième jour de canicule qui devrait s'étendre au nord de la France demain et doit durer au moins jusqu'à mardi. C'est la fin de ce journal réalisé par Antoine Bouchet, 9h07 sur France Culture.